Peugeot.fr. Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et pour notre anniversaire, du 2 au 29 avril, on va vous gâter.
Ah oui? Pourquoi? C'est aussi mon anniversaire?
Et oui! Chaque jour, foncez à notre borne de jeux en magasin pour tenter de gagner des e-cartes cadeaux jusqu'à 50 euros. Et en plus, avec ma carte Netto, tentez de gagner un séjour en famille.
Ne m'en dites pas plus, je fonce chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto.
Jeu avec obligation d'achat dès 25 euros. Règlement sur netto.fr.
RTL. RTL 15h. Les trois infos qui comptent sur RTL, c'est avec vous. Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous.
C'est désormais Mathilde Panot qui est convoquée par la police pour apologie de terrorisme.
Du terrorisme, effectivement, la chef des députés de la France Insoumise l'a annoncé elle-même en début d'après-midi. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Une enquête avait été ouverte après un communiqué du groupe parlementaire publié le 7 octobre, jour de l'attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël. Suite à cette convocation, Jean-Luc Mélenchon estime sur les réseaux sociaux, je cite, que c'est un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie qui démontre une volonté de protéger un génocide à Gaza. Voilà ce qu'ajoute le leader de la France Insoumise.
L'interpellation d'un adolescent à Toulouse ce matin.
Âgé de 14 ans, il a été placé en garde à vue. Il est accusé d'avoir giflé et menacé son professeur de technologie hier en plein cours. Inconnu des services de police, cet élève avait déjà été sanctionné pour son manque de discipline.
Un nouveau drame dans la Manche.
Ce matin, 5 personnes, dont une petite fille de 7 ans, sont mortes dans une embarcation au nord de Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Plus d'une centaine de migrants étaient à bord et tentaient de rallier la Grande-Bretagne. 4 passagers ont été hospitalisés. Des détails qu'a donné le préfet du Pas-de-Calais tout à l'heure, Jacques Billon.
Le bateau s'est trouvé en difficulté. Le moteur a été stoppé. Je vous dis, il y a plusieurs personnes qui sont tombées à l'eau, d'où l'engagement par le préfet maritime de l'abeille Normandie. Et sur place, non seulement les personnes qui étaient à l'eau ont pu être secourues, mais on a constaté dans le bateau des personnes inanimées, en grande difficulté. Et ce sont les six personnes qui ont été prises en charge et déposées sur la plage de Vimereux. Malgré les tentatives de réanimation, 5 d'entre elles sont donc décédées.
Ce drame nous rappelle pourquoi mon plan est si important, a réagi le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Vous le savez, le Royaume-Uni vient d'adopter un projet de loi très controversé, loi qui permet d'envoyer des clandestins au Rwanda et ce, peu importe leur nationalité. Cela pour objectif de décourager les candidats à l'immigration illégale.
Et puis un transfert sur la grande planète foot.
Oui, on l'apprend à l'instant, Olivier Giroud rejoint le club du Los Angeles FC. Il retrouvera un autre champion du monde tricolore, un certain Hugo Lloris, qui joue déjà dans ce club californien.
La météo demain.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store, pergola, brise-soleil, sur mesure et motorisé.
Un temps nuageux dans la plupart des régions, avec des averses plus fréquentes en cours d'après-midi. Il neigera en montagne à partir de 1000 mètres sur les Vosges, le Jura et les Alpes. Le ciel restera plus dégagé sur le littoral méditerranéen. Mais Mistral et Tramontane seront encore au programme. Côté température, ce sera encore en dessous des normales de saison. Le matin, 2 à 7 degrés en général. L'après-midi, 9 à 12 dans la moitié nord, 13 à 17 degrés dans la moitié sud.
Les résultats du quintet, c'était à Compiègne.
Et il fallait jouer l'As, le 7, le 11, le 16 et le 8. Il est 15h03 sur RTL. La suite de l'heure du crime, c'est tout de suite et c'est avec vous, Jean-Alphonse Richard.
Merci beaucoup, Agnès Bonfillon. On vous retrouve évidemment à 16h pour les infos qui comptent. À tout à l'heure.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
J'ai eu un rendez-vous avec elle. Je suis arrivé avec un peu de retard. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas seule, qu'elle était avec deux personnes, et donc je ne suis pas rentré chez moi. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut se revoir? Elle m'a expliqué que c'était seulement des copains qui l'accompagnaient, donc j'avais aucune raison de m'inquiéter.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Valérie Subras. En décembre 84 à Paris, cette jeune vendeuse, 18 ans, est accusée d'avoir participé au meurtre de deux hommes. Elle a servi d'appât pour deux garçons à peine plus âgés qu'elle. Les meurtriers présumés sont interrogés. Jeudi 20 décembre 1984, Jean-Rémy Sarrau et Laurent Attab sont en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Sarrau, garçon fragile et apeuré, avoue les crimes sans hésitation. Pendant 6 heures, il en livre les moindres détails. Valérie Subra était bien l'appât, elle avait rencontré l'avocat Gérard Lelédier, qui l'appelait « mon poussin ». Le vendredi 7 décembre, vers 21h, Valérie s'est rendue chez l'avocat. Elle avait le code de l'immeuble. Les deux garçons l'ont suivie. Après quelques minutes, elle est ressortie de l'appartement et leur a lancé « il est seul, c'est ok ». Les deux hommes, cagoulés et armés, ont braqué l'avocat. Pour que Valérie ne soit pas inquiétée, ils l'ont également ligoté. Sarrau raconte comment Gérard Lelédier a été menacé, giflé, pour qu'il avoue où il cachait son argent. On le frappe alors à coups de bûche sur le crâne. « Il a perdu sa perruque, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais scalpé. Je suis sorti de la pièce », explique Jean-Rémy Sarrau. Laurent Attab lui donne alors un couteau. Il fallait tuer la victime qui risquait de les reconnaître. Sarrau a poignardé l'avocat à la gorge et en plein cœur. À minuit, le trio a quitté l'appartement. L'argent volé, 1500 francs, a été dépensé en champagne dans une boîte de nuit. Laurent Attab n'est pas bavard. Il faut une journée de garde à vue, des perquisitions au domicile de ses parents où l'on retrouve ses baskets ensanglantées pour qu'il avoue. Il confirme le film de la mort de l'avocat Gérard Lelédier pour le commerçant Laurent Zarade. Il explique que lui et Sarrau étaient armés de pistolets mais ne portaient pas de cagoule. Pendant qu'il frappait Zarade, Valérie Subra est sortie de la chambre pour regarder dans le salon des clips vidéo. Jusqu'à 3 heures du matin, les deux hommes ont essayé de faire dire à Laurent Zarade où il cachait son argent, ni coffre-fort, ni lingot. Laurent Attab a fini par achever le commerçant en le poignardant avec un coupe-papier. Et dans cette heure du crime, on retrouve Christian Flèche, l'un de nos invités à l'époque. C'est vous qui, au 36 quai des Orfèvres, à la brigade criminelle, vous supervisez cette affaire et notamment vous assistez à ces gardes à vue. Pourquoi fallait-il tuer pour ces garçons? Parce que en fait, il y a quelque chose qui est toujours étonnant, qui m'étonne un peu, c'est que pour l'avocat Lelédier, ils étaient masqués. Donc on n'aurait peut-être pas pu les reconnaître. Par contre, pour Zarade, le commerçant, alors là, il n'y a pas de masque.
Oh, ce que vous dites, ce que vous décrivez parfaitement, est aussi aura aussi des conséquences sur un terme juridique entre le meurtre et l'assassinat. Mmh. On peut imaginer que sur la première affaire, il n'ait pas forcément eu l'intention de tuer l'avocat, même si, bien sûr, si l'avocat était resté vivant, le point de contact aurait été la jeune femme que l'avocat nous aurait immédiatement désignée et qui ensuite, par enquête, aurait pu nous rapporter vers Jean-Rémy Sarrau et Laurent Attab. Mais dans la deuxième affaire, d'abord il y a déjà un mort, et ensuite ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de cagoule. Donc ils sont clairement identifiables. Oui. Donc il faut imaginer
qu'il faut le tuer,
et que s'ils ne mettent pas de façon de se masquer, on peut imaginer qu'ils sont venus dans l'intention de le tuer, comme ça s'était passé la première fois, et là on rentre dans la notion juridique d'assassinat.
Donc ils ont changé un petit peu de posture, hein, entre les deux assassinats.
Il y avait un premier mort, après...
C'est un peu désinhibé, on a l'impression.
Peut-être, sans doute, ouais, vous avez raison.
C'est ça, donc on oublie tout finalement, on ne cherche pas à se cacher. Guillaume Fard, vous êtes avec nous également dans le studio de l'heure du crime, auteur du livre Flic Stories, qui sort demain aux éditions du Rocher, des grands flics qui se racontent, et vous faites évidemment vous parlez de cette histoire dans votre ouvrage. Alors Attab, il va se rétracter, il va avouer, mais avec difficulté d'ailleurs, il va se rétracter, il va dire que c'est Jean-Rémy Sarrau qui menait la danse. Alors là, c'est de bonne guerre, on se renvoie un petit peu le bébé.
Oui, mais il arrive que dans les affaires de crime que vous connaissez bien, pour les suivre quotidiennement, quand il y a des duos masculins, bon là c'est un trio, mais l'un prend parfois l'ascendant sur l'autre, recrute l'autre, finalement n'assume pas totalement ce que l'un a fait. Et là, effectivement, il y a ce côté, on renvoie la balle. Et puis, il y a ce côté aussi... Pour Jean-Rémy Sarrau, j'assume puis j'assume pas aussi, parce que dire dans le cas du meurtre de Maître Lelédier, il perd sa perruque, J'ai peur, donc je m'en vais, mais je reviens, et quand on me donne l'arme, je m'en sers. Et puis dans le cas du deuxième meurtre, c'est Laurent Attab qui fait le travail. Bon.
Il fait le boulot, il va dire qu'il avait beaucoup hésité. Hein. Oui. Il a beaucoup tergiversé. Christian Flech, vous confirmez ça?
Oui, je pense que, pour poursuivre sur ce que dit Guillaume, je pense que dans la première affaire de Le Lédier, effectivement, il n'est pas bien. Effectivement, Attab lui donne le couteau pour qu'il le tue, et Sarraud est sous l'emprise. Donc, il le fait. Mmh. Il le fait et il l'assume complètement. Ensuite, lorsqu'il va avouer ses participations, il mettra en cause Attab, et on n'avait aucune raison de ne pas le croire, dans la mesure où il avait assumé un premier meurtre, il aurait pu assumer le deuxième aussi. Et d'ailleurs, Attab, finalement, finit par reconnaître sa participation, pour revenir en arrière beaucoup plus tard,
au cours
de l'instruction.
Alors, il y a beaucoup qui assume, qui est très, très disert, qui parle beaucoup, c'est le cas de Jean-Rémy Sarraud, qui raconte très vite, il vend très vite, beaucoup. Après, chacun, dans ces moments-là, sans doute, s'arrange un peu avec sa conscience. Si vous n'assumez pas pleinement, pas au sens de la reconnaissance, mais au sens de la culpabilité que vous pouvez porter, vous pouvez avoir tendance à beaucoup dire, avec beaucoup de détails. Et on voit que chez Laurent Attab, il y a des sortes de palinodies, des tergiversations, il vient, il repart. Bon, c'est probablement que le chemin n'a pas été le même sur le plan psychologique, j'entends. Hein,
et j'ajoute à ça aussi qu'il y a beaucoup d'immaturité, évidemment, hein, dans ces jeunes gens. Là, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Alors, juste un petit mot, Guillaume Fard. Valérie Subra, elle n'a rien vu, rien entendu, elle.
Elle, de toute façon, comme ça a été rappelé tout à l'heure, dès l'instant où elle a donné à la brigade criminelle les deux noms, bon, après, c'est plus elle qui porte les coups,
elle
se dédouane un peu. Et au fond, ça va être une des questions centrales du procès. C'est, à partir du moment où vous servez d'appât, vous êtes quoi? Vous êtes complice? Vous êtes co-auteur? Quel est votre rôle exact? Et dans quelle mesure, vu que c'est un trio, on peut vous incriminer à parité avec les deux autres, sachant que vous n'avez pas porté les coups mortels?
Un trio qui, 4 ans plus tard, effectivement, va comparaître aux assises. Valérie Subra et les deux garçons, piège fatal dans les beaux quartiers. Lors de la soirée du premier crime, Laurent et moi, nous sommes devenus méchants. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Vous faites vos fenêtres vous-même, Chantal Latsou?
J'adore ça.
Ah oui?
Ah oui, avec un papier de journal.
Ah oui?
Parce que ça ne laisse pas de traces.
Puis c'est vachement
et de l'alcool
bien.
À brûler.
Si tu frottes avec le monde, tu vois plus loin.
Je suis avec le nouvel observateur, tu vois mieux.
Ouais. Avec le point, tu casses la vitre.
Oui, mais avec l'express, tu vas plus vite.
Et avec le parisien, tu râles tout le temps.
Les grosses têtes, tous les jours à 15h30 sur RTL.
RTL, rire ensemble.
Hey. Les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Valérie Subra, accusée en décembre 84 à Paris d'avoir attiré deux hommes dans un piège mortel. Elle a servi d'appât pour deux jeunes garçons qui ont dépouillé et tué un avocat et un commerçant. 4 ans plus tard, le trio est jugé. Vendredi 8 janvier 1988, Valérie Subra, 21 ans, cheveux tirés, pull noir, visage enfantin et yeux embués de larmes. Laurent Attab, 22 ans, blouson andin, regard fermé, et Jean-Rémy Sarraud, chemise à carreaux, petites lunettes, sont devant la cour d'assises de Paris. Seule Valérie Subra attire les regards. Une semaine avant le procès, elle a fait la couverture de Paris Match. Une photo où on la voit sortir d'une piscine, t-shirt mouillé, avec ce titre « Valérie, la diabolique ». Jean-Louis Pelletier, son avocat, s'insurge contre cette présentation qui pourrait fausser l'esprit des jurés. Valérie Subra proteste, elle aussi, elle se met à sangloter. « Pourquoi vous acharnez-vous sur moi? Tuer comme ça, pour un peu d'argent, c'est horrible et monstrueux », dit-elle. L'avocat général annonce qu'il ne fait pas, lui, de différence entre les uns et les autres. Unis tous trois dans la préparation, unis tous trois dans l'exécution, unis dans le partage, il serait choquant qu'ils ne soient pas unis dans la condamnation, martèle le magistrat. Jean-Rémy Sarraud raconte le supplice de Gérard Lelédier, qui a duré 30 minutes. « Laurent et moi, nous sommes devenus méchants, dit-il. Pour Laurent Zarade, la deuxième victime, le président de la cour demande s'il avait été décidé de le tuer. « Oui », vont répondre Valérie Subrat et Jean-Rémy Sarraud. L'avocat de la famille Zarade, François Spiner, compare le trio à Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames du 18e. « C'est facile de dire « je n'ai pas de sang sur les mains », mais vous avez du sang sur la conscience », dit-il. L'avocat général s'adresse à Valérie Subrat. « Je sais qui vous êtes, une poule perverse. Vous avez l'audace, l'aplomb, l'intelligence. Je vous demande pardon. » Pardon, pardon, répond la jeune femme. Après 3 heures de délibéré, les jurés rendent un verdict identique pour les accusés, perpétuité pour tous, 20 ans de sûreté pour Attab et Sarraud, 16 ans pour Subrat. Un procès où les accusés vont dire qu'ils regrettent, mais ont-ils pu expliquer ce qu'ils avaient fait à ce procès? On n'en est pas tout à fait sûr. Christian Flech, ancien patron du 36, et à l'époque que vous étiez à la brigade criminelle, et vous avez participé à cette longue enquête avec vos collègues de la criminelle, enquête rapide et efficace, et très bien menée, il faut bien le souligner. Est-ce que vous êtes cité comme témoin, vous venez rencontrer, vous, comment vous avez mené cette enquête, etc. C'est très classique et c'est normal. Qu'est-ce que vous apprenez à ce procès? Ou peut-être que vous n'apprenez pas d'ailleurs?
Si vous voulez, quand on arrive devant une cour d'assises et qu'on a déjà cette affaire qui a quelques années, on arrive devant, et avec le retentissement médiatique qu'il y a eu dans les jours qui précèdent le début du procès, évidemment la cour d'assises c'est un jeu de rôle, un jeu de scène, dans lequel nous aussi on a notre part en tant que témoins, et où les avocats chacun ont leur rôle, l'avocat de la partie civile également, et l'avocat général. Donc, ce qu'on apprend, c'est un peu ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'on a une jeune femme qui joue la jeune femme éplorée, qui est le nez dans son mouchoir.
C'est une victime,
parce
finalement.
Au début, les photos que vous voyez, c'est des photos qui sont prises avant le début du procès, au moment où les journalistes ont le droit de les prendre en photo.
C'est le seul moment,
d'ailleurs. Avec l'accord, et ensuite c'est fini. Et ensuite, vous évoquiez Laurent Attab. Laurent Attab a changé régulièrement de vêtements au gré des journées d'audience, et puis Sarraud était très effacé. Voilà. Après, il y a le jeu des avocats, des uns et des autres, pour mettre en avant ou pas tel ou tel point, c'est de bonne guerre. Et on a clairement, si on peut pas être sûr d'avoir deux assassinats, on a au moins sûrement un meurtre et un assassinat à juger. Et ensuite, je suis assez d'accord sur la position juridique de l'avocat général, qui dit qu'ils sont unis dans la répression, parce qu'ils étaient unis depuis le début jusqu'au partage.
Guillaume Fard, journaliste police-justice sur BFM TV, et puis auteur du livre Flix Stories, qui sort demain aux éditions du Rocher. Merci encore de nous en donner la primeur de ce livre où des grands flics se racontent. Alors il y a la diabolique, parce que c'est comme ça qu'on la présente, Valérie Subrat. Elle va être la vedette, parce que quelques jours seulement avant le procès, je l'ai dit, Paris Match, elle est en t-shirt mouillé, elle fait la une de Paris Match, et ça crée presque un scandale.
Oh ben ça la dessert, assurément, pour
enfin, c'est pas elle qui a posé pour Paris Match.
Ah non, clairement pas,
bien le dire.
C'est le fait que la photo a été divulguée, et a divulgué en une de Match, et puis ce surnom, la diabolique.
Ouais.
C'est un qualificatif poisseux, parce que ça vous colle à la peau pendant toute la durée du procès. Et là où la ligne de défense assez classique dans ce type de procès aurait pu consister à essayer de minimiser son rôle, disant qu'au fond, elle est plus complice que co-auteur, qu'elle a servi d'appât mais elle n'a pas tué, elle n'a pas porté de coup mortel, et vous essayez ainsi de la détacher des deux autres, en créant un fil avec les jurés, qui est un fil pour la réhumaniser, en disant, bon, mais elle a 18 ans, elle s'est laissée entraîner, et au fond, ce qu'elle a fait est moins grave que ce qu'ont fait les deux autres.
Oui, c'est ce que vous disiez.
Pour créer une cassure.
Elle aurait pu être présentée comme l'appât, quelqu'un qui a suivi malgré elle.
Si vous êtes avocat de la défense de Valérie Subrat, vous tentez la cassure du trio. Parce que sinon, vous êtes emporté.
Bien sûr.
Vous êtes emporté, vous êtes jugé comme les deux autres. Et la une de Match, le qualificatif de diabolique, d'abord, ça fausse sans doute ou ça biaise à minima l'esprit des jurés. Et puis, ça donne beaucoup d'arguments à l'avocat général, qui au fond la présente comme une traînée. Il la qualifie de prostituée. À un moment, il a une phrase terrible où il dit votre avenir, c'est à Barbès comme prostituée. Enfin, c'est assez sordide comme présentation. Et là où ça va la desservir jusqu'au bout, c'est que les jurés, en leur âme et conscience, et c'est leur souveraineté, ne font finalement pas de distinction. Et considèrent qu'il y a équivalence et que peut-être elle n'a pas porté de coup mortel, mais pour autant, c'est un trio qu'il faut voir à parité, à égalité, et chacun prend la perpétuité. Après, on joue sur la période de sûreté, effectivement, à la 16 ans, vous le rappeliez, là où les autres ont davantage. Mais tout de même, pour elle, elle peut estimer que c'est un verdict qui est un verdict sévère.
Christian Flech, il y a aussi le récit de ses crimes à ce procès. Et là, les crimes, ils sont glaçants, il n'y a pas d'autre terme. Il y a volonté de tuer. On n'est pas tellement habitué à l'époque d'avoir des jeunes gens comme ça qui ne sont pas connus.
Non, bien sûr, on n'a pas l'habitude d'avoir des jeunes qui sont prêts à tuer pour de l'argent aussi facilement. Et c'est sans doute ce qui a amené ce retentissement médiatique qui a abouti à des livres sur cette affaire, dont celui de Morgan Sportes, que je me plais toujours à rappeler parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et puis le film qui a été fait beaucoup plus tard,
L'Appât. Gilles.
Par Tavernier, oui, bien sûr. Donc, on n'a pas l'habitude. On voit des jeunes qui jouent leur rôle aussi. J'ai toujours été frappé parce que j'étais avec la famille de Laurent Zarrad au moment où le procès, enfin la décision a été rendue par la cour d'assises. Et finalement, 16 ans, elle avait 18 ans au moment des faits. 16 ans, c'est quand même énorme.
Ah oui.
Et sa sœur m'a relativisé par rapport à l'âge de la victime aussi. Mmh. Et elle m'a dit, tu vois, voilà, il y a quand elle va sortir, en tout cas, mon frère, il sera plus là, et donc
elle aura son âge.
Elle aura un peu plus de son âge, mais elle refait sa vie. Elle a refait sa vie manifestement, et donc même si au moment où elle était en maison d'arrêt, elle a eu une condamnation qui a prolongé un peu sa détention.
Les condamnés vont donc purger leur peine, puis vont tenter de se faire oublier. Valérie Subra et les deux garçons, piège fatal dans les beaux quartiers. Je peux pas exprimer tous les regrets que j'ai, j'arrive à faire des cauchemars. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, 24 avril, sera une journée de commémoration en référence au 24 avril 1915, date du début du génocide arménien qui a vu plus d'un million de personnes victimes des autorités ottomanes.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, à la base c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalités sur intermarché.com.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Valérie Subra, Laurent Attab, Jean-Rémy Sarro, condamné à la perpétuité pour les meurtres d'un avocat et d'un commerçant en 1984 à Paris. La jeune femme servait d'appât pour démarcher des hommes présumés riches, de longues années de prison avant de sortir. 2001, Valérie Subra est la première à être libérée. Elle sort discrètement de la prison pour femmes de Rennes. Elle va quitter la France, se marier et avoir 2 enfants. Libérée 2 ans plus tard, Laurent Attab décède en 2020. Jean-Rémy Sarro meurt lui en 2022. Lors du procès, Laurent Attab, qui avait eu l'idée de cette expédition meurtrière, se voyait reprocher de ne pas avoir formulé de regrets. Il avait alors répondu « Je peux pas exprimer tous les regrets que j'ai, j'arrive à faire des cauchemars ».
On est dans une spirale infernale, et on n'a pas eu avant ni l'un, ni les uns, ni les autres d'avoir le courage de dire stop. Donc on a été jusque là, et donc je suis persuadé qu'il n'y a que la police qui puisse arrêter ça.
C'est la voix de Jean-Rémy Sarro, un des condamnés dans cette affaire, et c'était dans une interview lors de l'émission « Faites entrer l'accusé ». Christian Flech, vous avez été au contact longtemps des familles dans cette histoire. Évidemment, c'est votre rôle aussi, vous êtes à la criminelle à l'époque, vous avez cette enquête, vous les voyez arriver, ces proches, et vous leur parlez, la famille de Zarrad notamment.
Oui, la famille de Zarrad, je suis resté longtemps, malheureusement, sa sœur est décédée maintenant, mais j'ai été en contact avec elle parce qu'elle était avocate et qu'on se croisait aussi dans le palais de justice et qu'on se parlait. Effectivement, elle a eu... Elle a eu un choc par rapport à sa foi, et ensuite elle a eu un choc sans doute parce que quand elle m'a annoncé qu'elle avait eu une maladie, elle l'a lié avec ce procès, elle l'a lié à ce qui est arrivé à son frère. Mmh. Voilà. Elle a eu une rémission, et ensuite elle a eu une rechute, et malheureusement elle est décédée.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a eu une conséquence qui était évidente. Et ensuite, Sarraud a été dans une démarche complètement différente, parce qu'il sort de prison, et il accepte, ce qui était assez extraordinaire, de témoigner dans l'émission « Faites entrer l'accusé » à visage découvert. Où là, on découvre le nouveau personnage, où il raconte ce que l'aumônier a pu lui apporter aussi en prison, et où évidemment, derrière, les gens l'ont reconnu dans la rue. Et où il a dû... Peut-être c'était une démarche expiatoire, je ne sais pas comment il a pu arriver à ça, je découvre qu'il est décédé, mais comment il a pu arriver à accepter de témoigner dans une émission, longtemps après avoir purgé sa peine, pour raconter dans une émission de télé qu'il a tué quelqu'un.
Sans doute était-il, on dirait ça, à l'église, mais dans le repentir, en quelque sorte, hein, parce qu'effectivement, il y a cette démarche qui est assez troublante, et lorsqu'on revoit ces images de cet homme qui est encore apeuré, qui vit dans une espèce de tension secrète et permanente... Qui a changé physiquement, on est très surpris par le langage qu'il tient, il parle très lentement. Il faut regarder effectivement ces images. Guillaume Fard, vous êtes auteur du livre Flick Stories, qui sort demain aux éditions du Rocher, les grands flics qui se racontent. Et parmi ces grands flics, évidemment, vous avez interviewé Christian Flech, qui est avec nous dans cette heure du crime. Est-ce que c'est cette fille et ces deux garçons... On parle beaucoup aujourd'hui de crimes violents, insensés, cyniques, et notamment qui émanent de très jeunes, où on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière, que les digues ont cassé comme ça. Est-ce que ça préfigure pas une génération de tueurs cyniques et froids ?
Moi, je crois qu'à chaque époque, si on parcourt les archives criminelles, et vous le faites beaucoup, je le fais beaucoup, on trouve des crimes sordides. La question, c'est plus, qu'est-ce qui va faire qu'un crime sordide va être plus médiatisé que les autres, va l'emporter médiatiquement? Ça, c'est toujours assez fascinant.
Les personnages, peut-être
Les personnages, le récit, mmh. Le caractère parfois spectaculaire, cruel, romanesque, les trois à la fois. Et le fait que là, il y a un trio avec une très jeune femme au milieu qui servent d'appât, probablement que c'est un déclencheur dramatique qui fait qu'il y a une focalisation médiatique sur cette affaire qui devient ensuite un objet littéraire, puis un objet cinématographique, et puis on en parle encore 40 ans plus tard à votre micro. Et cette extrême violence-là est restée. Et puis il y a le côté piqûre de rappel aussi, d'au moins un protagoniste, je l'ai rappelé, Jean-Rémy Sarraud, qui jusqu'au bout, quasiment l'année de sa mort ou l'année avant sa mort, qui raconte encore.
Ouais,
et à nouveau, un peu comme s'il était hanté par
exactement.
Ce récit.
Je crois que c'est le bon terme, il était hanté par ce récit. Qu'est-ce qu'ils sont... Alors, j'ai découvert effectivement, moi, comme Christian Flech, que
sont morts les deux,
ouais. Ces protagonistes étaient morts, j'ignorais. Les deux sont morts, Attab et Sarraud. Et puis...
Et Valérie Subra...
Valérie Subra, elle est partie.
Ce que l'on sait, bon, d'abord, elle avait suivi des études en détention, comme le rappelait Christian Flech. Sa détention était rallongée parce qu'elle a été condamnée entre-temps. Et ensuite, elle a refait sa vie, elle a eu des enfants, et de ce que l'on sait, elle vivrait au Maroc. J'emploie le conditionnel, parce que c'est pas, en tout cas, confirmé, consolidé. Et elle, pour le coup, a une très 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 grande discrétion.
Oui, mais elle a effectivement tourné la page, sûrement, et peut-être effectivement fait son deuil de cette histoire et refait sa vie. Elle a payé de toute façon sa dette à la société. Christian Flech, à l'époque, à la brigade criminelle, ça aussi, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous avez percevé que cette affaire, elle est un peu hors norme ?
Non, encore une fois, c'est très très difficile pour nous, quand on est dans les enquêtes, d'arriver à avoir du recul par rapport à tout ça. Parce que vous évoquez 84-85, Spinner a évoqué
l'avocat
Thierry Paulin. Ouais. C'était au moment, effectivement, où il y avait les personnes âgées dans le 18e qui étaient agressées par Thierry Paulin et Mathurin. Et donc, c'était un vrai sujet de la brigade criminelle. Et puis aussi, c'était une période où il y avait des attentats très régulièrement. Donc, la criminelle prend des dossiers. Alors, un dossier chasse l'autre et elle n'a pas le temps d'avoir ce recul qui, heureusement, a été fait par d'autres et qui nous permet maintenant d'en parler, comme le disait Guillaume, 40 ans après.
Et oui, c'est ça. Donc, vous aviez pas à l'époque...
Non, et même on arrive...
Même si vous étiez surpris par la jeunesse des protagonistes. C'est
bien sûr, on est surpris par la jeunesse. Mais vous savez, on est toujours surpris comment des gens peuvent arriver à en tuer d'autres.
Et vous posez toujours cette question.
Bien sûr, parce que chaque dossier est différent. Dans le bouquin de Guillaume, il y a Ange Mancini qui dit que la brigade criminelle, c'est la culture du doute. Donc, on est là et on est sur un dossier, on a un doute, et finalement, on découvre des situations où des gens prennent des plaisirs à tuer de telle ou telle façon, où là, ils ne prennent pas de plaisir, ils tuent pour avoir un peu d'argent.
Guillaume Fard, je termine cette émission avec vous. Un petit mot. 10 grands flics interrogés, dont un gendarme.
9 et un gendarme.
Voilà. Il y a 10 personnalités, 10 oui. manières de mener des enquêtes, c'est ça ?
Absolument. Et en fait, là où on aurait pu faire un livre qui est une collection d'affaires, on a fait une collection de personnalités et d'enquêteurs. Et donc, ça permet de revisiter plusieurs affaires. Et à chaque fois, la même surprise face aux sordides des crimes. Christian Flèche citait Ange Mancini. Ange Mancini, c'est l'occasion d'évoquer l'affaire du japonais cannibale.
Ah oui, Issei Sagawa.
Bien connu à RTL dans l'heure du crime. Parce que un jour, il est de permanence. Ça arrive souvent comme ça. Et il se retrouve avec un corps dans une valise qui a été en partie mangée. Bon, bah oui, il n'y a pas de limite dans le sordide.
Merci infiniment Guillaume Fard. Je rappelle le titre de votre livre Flick Stories qui paraît aux éditions du Rocher, et Christian Flèche d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vignon, préparation Marie Bossard, Marie-Lou Goyer, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Et demain, dans la seule émission radio 100% fait divers, l'affaire Guy Fernet, meurtrier ou victime ? Le moment où un homme ordinaire devient un criminel, c'est par peur qu'il a tué. Tout de suite, Laurent Ruquier, les grosses têtes sur RTL.
RTL. Les déménageurs bretons, votre spécialiste du déménagement de particuliers et d'entreprises depuis plus de 50 ans. Les déménageurs bretons, la confiance a un nom.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver.
Salut la France.
Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête, monsieur, qui triche dans du cobu, mais jamais dans l'émission, Gérard Jugnot. Une grosse tête, rappeur, acteur, et maintenant officiellement grosse tête, Stomy Buxy.
Oh oui, salut la France.
Une grosse tête footballeur qui n'a rien perdu de son sens du collectif, Adil Rami.
Bonjour.
Une grosse tête qui depuis peu aime autant le football que le rap, Isabelle Mergaud. Une grosse tête dont le tambour est souvent accompagné d'un pipeau, Caroline Diamant.
Bonjour.
Et une grosse tête qui, face à Adil Rami et Stomy Bugsy, se dit qu'il n'aurait pas dû arrêter son abonnement à la salle de muscu. Guillaume.
Bonjour.
Je vous ai pas mis dans le collimateur d'Isabelle Mergaud de manière à ce que vous évitiez.
Non, vous avez bien fait de mettre mon frère jumeau hein, à côté.
Monsieur Rami, qui Rami. Est de retour de son ranch au Texas.
Exactly.
Ah, mais c'est ça que t'as un jamais.
T'as un ranch ?
Non, j'ai pas de ranch, mais j'ai un ranch.
C'est quand tu me réponds sur Instagram.
Je t'ai répondu.
Mais tu m'as demandé.
Arrête,
mais si, c'était répondu. Pour tes conseils de crème pour la peau. Tu m'as donné.
Ah
m'as dit
oui,
que t'avais des bonnes.
Je t'ai déjà dit le nom.
Il conseille des produits et puis il n'y a pas de SAV derrière.
Mais non, je conseille rien, il est venu me voir, il m'a dit t'es trop beau, qu'est-ce que tu mets sur ta peau?
Oh non, non, tu m'as dit que j'en ai rien.
J'ai pas dit ça comme ça. J'ai pas dit ça comme ça.
Puis tu peux rien faire, t'es beige. tu m'as pas demandé à moi.
En tout cas, on est gâtés, on a deux beaux garçons.
Ah ben c'est gentil.
Merci.
Et
c'est
Isabelle,
le plus beau sandwich.
Mais t'es pas à côté de moi aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé?
Tu t'es quoi?
Tu préfères Adil que moi, t'es pas à côté de moi aujourd'hui.
Bah, tu crois que c'est moi qui mets les places? Je déteste cette place.
Gérard, notre jour viendra.
Il est même venu.
Monsieur Rami, vous connaissiez Stomy Bugsy?
Oui, tout le monde connaît Stomy Bugsy.
Ah bah oui, mais d'habitude vous connaissez personne alors.
Ouais, mais là quand même.
Ah oui.
C'est notre génération quand même, les chansons et tout ça, le rap. Mais quand vous me présentez Monsieur Le Chat qui a écrit la BD, moi... Pff.
Gueluc, vous voulez dire Gueluc?
Monsieur Gueluc qui a écrit la BD Le Chat et non pas Monsieur Le Chat.
Là.
Et vous connaissiez Monsieur Rami, j'imagine, Stomy.
Bien sûr.
Bah
bien
oui.
Sûr.
Est-ce que vous connaissiez
je
Caroline?
Je sais qu'il a joué à Marseille, je sais qu'il a joué en Turquie, il a joué à AC Milan, c'est ça?
Non, il a joué sur un banc.
Oui, joué.
Mais monsieur, je sais même qu'il a été mécanicien. Exactement.
Oui, il est redevenu mécanicien.
Et Adil, moi aussi, je m'appelle Rami. Ah oui,
Ramirez.
Ramirez, ah oui.
Attendez, dans le casting, il y a Caroline, Adil, Guillaume. On va, la mission n'a pas commencé, mais on offre déjà 300 euros.
Caroline Diamant, je ne sais pas si vous la connaissiez, parce qu'elle a travaillé dans le disque, monsieur Botti.
Attends, je vais donner une petite anecdote. Elle a travaillé à Virgin, après elle a travaillé dans mon label à Sony Music, elle était directrice de Epic. Et j'ai voulu la pécho pendant un moment. J'ai voulu la charmer, mais elle était mariée à l'époque. C'est une femme très fidèle.
Quoi, alors ça, c'est pas vrai,
c'est pas vrai.
On a la liste des chanteurs.
En tout cas, moi, j'ai essayé de la pécho, elle m'a dit, je suis mariée, c'est vrai, c'est une femme très fidèle.
Mais, ah oui, il y a une liste. Mais disons que j'avais
Caroline
déjà...
Ah bon ?
Non, c'est pas ça.
Tu m'as recalé à leur liste.
Non, je t'ai recalé, non pas. Alors, je vais t'expliquer. Disons que dans le même groupe, j'avais déjà eu une infidélité dans ce groupe-là. Donc, je me suis dit...
Elle avait eu
deux dans le même groupe, on va se dire...
Elle s'est fait
c'est une céréale qui le... Mais sinon...
Elle pouvait pas se faire tout le ministère amer.
Ce n'est pas été de refus. Non, en revanche, je peux vous raconter une anecdote. Moi, qui ai peur des chiens, un jour, il passe dans mon bureau avec un tout petit chiot tout mignon, comme j'y connais rien moi en marque de chien, et il me dit ça t'ennuie pas de me le garder 5 minutes, je vais faire un tour dans les bureaux. Et là je vois des gens qui défilent dans mon bureau qui me disent bah, qu'est-ce que tu fais avec un comment ça s'appelle,
un pitbull.
J'étais seul avec un pitbull. Vous vous rendez compte?
Mais okay. Caroline, vous êtes remariée, vous êtes, enfin, sans indiscrétion, c'est pour
alors
voir
Caroline, elle a divorcé.
Mais c'est qui Caroline?
Alors
pourquoi vous parlez troisième?
Parce qu'il me parle. Caroline, vous êtes.
Ah, pardon.
Je suis séparée depuis 10 ans, et non, j'ai pas encore fait le divorce. Et non, je ne me remarierai jamais.
Et quand on dit que ce que je raconte n'est pas intéressant, bah merde alors.
Qu'est-ce que vous dites ?
Quand on dit que moi, je suis toujours coupée parce que c'est jamais intéressant, et là, on lui laisse parler de son divorce et de son... C'est pas intéressant, franchement, Caroline. T'as déjà été plus intéressante que ça.
Non, mais moi, au moins, j'ai eu un homme.
Bon, bah, je crois qu'on va passer...
Eh ben, on est bon, là, Laurent, hein, on peut y aller. Hein.
On va passer à une première citation pour M. Tomaso de Fréjus, tiens, justement, dans le Var, qui a dit « Je ne cesse de penser que je ne pense plus à toi.
» Sacha Guitry.
Oui, bonne réponse d'Isabelle Merleau. Pour Florent Montier, la deuxième citation, il habite dans le Rhône, qui a dit « Je n'ai pas pu assister à ses funérailles, mais je lui ai écrit une très belle lettre pour dire que j'étais d'accord. »
Oscar Wilde.
Non.
Ah, ça c'est un ennemi élégant.
C'est un Américain, grand humoriste et romancier américain, écrivain, essayiste.
Roth ?
Oui, Truman Capote.
Non, avant Truman Capote.
Avant ?
Bob Hope ?
Non, romancier américain.
Romancier.
L'auteur de Tom Sawyer.
Alors je l'oublie toujours.
Attends.
Mais non, enfin voyons.
Quoi. Smith.
Mais non.
Jones.
L'auteur de Tom Sawyer.
Merde.
On peut regarder dans les portables.
Enfin, non.
Bon, pourquoi ça sert à quoi alors?
Ça
sert à quoi un portable?
Un portable, ça sert à pas tricher. Bah,
attends, je vais demander au public. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui sait?
Mais bien sûr, Mark Twain.
Elle le sait.
Mark Twain. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Mark Twain. On est sauvés. Un dialogue de couple maintenant pour Philippe Alain qui habite dans l'Allier, qui a dit « Je me sens si seul », dit la femme. Et lui, le mari, répond « Moi, pas assez ».
C'est dans un boulevard ?
Dans un boulevard,
c'est dans
non.
Ils s'aiment, ils se sont aimés ?
Non.
Pas du tout ?
C'est quoi ? C'est un Français ?
Un Français.
Paul Géraldi ?
Paul Géraldi, non.
Est-ce que c'est dans une pièce de théâtre ?
Non, c'est pas dans une pièce de théâtre.
C'est dans un roman.
C'est un académicien français qui a écrit ça,
d'ailleurs.
Pardon ?
Dutour.
Jean Dutour, bonne réponse d'Isabelle Merleau, c'est Jean Dutour.
Elle est là, hein ?
Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h.
Alex Vizorek.
Je suis quand même un peu le Kylian Mbappé de la blagounette. J'ai rien contre Philippe Cavrivière qui serait plus, je dirais, le Olivier Giroud.
Ou Philippe Cavrivière.
Ça fait nom d'antibio, Vizorek. Si vous auriez pas deux boîtes de Vizorek, j'ai un début d'angine.
Que vous soyez du matin ou du soir, l'humour, c'est sur RTL.
Et bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour les grosses têtes de Laurent Ruquier. C'est sur RTL et jusqu'à 18h, très bel après-midi. À vous.
Une question d'actualité pour Monsieur Diagne qui habite Beaucourt dans le territoire de Belfort. Question liée, vous savez, à ce pensionnat qui a été visité par Monsieur Attal hier, le premier internat organisé pour les jeunes, on va dire, en difficulté. On a vu Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Attal faire la leçon aux jeunes qui étaient là autour d'eux dans cet internat. Et ma question va être toute bête. Quel était le nom de l'internat dans lequel on retrouvait Clément Mathieu?
Les Soudoués?
Les Soudoués, non.
Clément Mathieu?
Oui, Clément Mathieu.
Dans Les Choristes?
Oui, dans Les Choristes.
Ah oui, j'ai vu ce film. L'étang?
Comment vous dites?
Le fond de l'étang?
Fond de l'étang, il a de la mémoire. Ah, oui. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Vous vous souvenez de la chanson des Choristes?
Oui, hein. Vois sur ton chemin, trop vite oublié, égaré, donne leur la main pour les mener vers d'autres landes.
Oh punaise, il a rien pour lui.
Restons dans le champ, si vous le voulez bien, maintenant, avec Kenji Girac, puisque la question...
C'est pas le champ, là.
La question concerne un autre gitan célèbre qui s'appelait Hugo Sénard. Qui était ce gitan célèbre qui portait le nom d'Hugo Sénard?
Alors moi, c'est pas difficile. En gitan, je connais Kenji Girac et je connais les...
Les Gypsy Kings.
Voilà.
Eh ben, c'est pas ça, hein.
Il chantait?
Il chantait? Non, il chantait pas.
C'était un metteur en scène?
Un metteur en scène. Non. Oh, il a réalisé.
Un guitariste?
Un guitariste, non. Non.
Un acteur?
Hugo Sénard, c'est un des gitans les plus célèbres acteurs.
Pardon. Il est célèbre où?
Au cinéma, en tout cas.
Comme acteur?
Comme acteur, non.
Comme dialoguiste?
Comme dialoguiste, non.
Romancier. Il fait des musiques de films?
Non plus.
Comme réalisateur?
Non.
Il est monteur?
Ma question, c'est qui était Hugo Sénard?
Oui, on a compris. Hein.
C'est un personnage?
Je sais.
C'est mort.
Vous allez voir, ça va venir de loin, mais ça va
c'est
arriver.
Dommage.
Il y a un monsieur, c'est Mario Luracci, celui qui entraîne tous les acteurs à cheval.
Alors, un coup de tambour pour rien encore.
Alors,
c'est un gitan qui vient d'où?
Est-ce qu'il existe ou est-ce que c'est un personnage de roman?
C'est un personnage qui, effectivement, n'est pas un... Ah si, d'ailleurs, c'était un roman au départ, et ça a été adapté au cinéma. Et Hugo Sénard, c'est le gitan, mais qui
est... Ah, mais c'est le père! C'est le père de Esmeralda!
Le père de Esmeralda.
Oui, dans Notre-Dame!
Mais non, Esmeralda n'avait pas de père.
Elle n'avait pas de père?
Non, elle était seule.
Ah bon?
Est-ce que...
C'est pas dans l'Argo Winch?
L'Argo Winch, non.
C'est Zorro?
Eh ben, vous avez raison, c'est aussi Zorro.
Ah, alors, c'est celui qui parle pas, là, le muet.
Parce que j'ai l'air d'avoir dit quelque chose d'intelligent, mais j'arrive pas à vous suivre dans le processus.
Bernardo?
Non!
Je suis à la fois ému, mais perplexe.
C'est vrai que le gitan, c'est aussi Zorro.
C'est mon pote.
Ah, le comédien qui faisait le gitan a fait Zorro.
Exact.
Oh là là, est-ce que je ne regarderai pas quelqu'un de bien?
Alain Delon.
Alain Delon. Très bonne réponse de Stony Bozzi. Le gitan, c'était un film de José Giovanni.
Oui, c'est ça.
Et Hugo Sénard dit le gitan, c'est Alain Delon dans ce film.
Ah, oui, mais des gitans comme ça, on en reçoit tous les jours.
Alain Delon, qui effectivement a été Zorro.
Oui, je me souviens, oui.
Voilà pourquoi j'ai été obligé de vous répondre oui quand vous m'avez dit c'est Zorro. Parce que, effectivement, il a été à la fois Zorro, Alain Delon au cinéma, mais aussi le gitan dans ce film de José Giovanni, avec aussi Annie Girardot et Paul Maurice. Ah. Mais le film s'appelait effectivement Le Gitan. Il n'a pas
Elle était belle, la musique, hein. La musique du gitan. Le gitan que tu ne connais pas, c'était comment il s'appelle?
Ah, ça, c'est Daniel Guichard.
Ouais,
je crois pas que c'était la musique du film.
C'est pas la musique du film, ça. Mon pote, le gitan.
Hein. Saluons quand même Alain Delon, hein. Et Kenji Girac, qui vivent tous, ils sont tous les deux alités, je veux dire, donc c'est bien de les...
C'est pas faux.
De les saluer, quoi.
Mais t'as raison, toi, de te moquer des gitans.
Il y a un autre gitan célèbre, c'est Ricardo Baliardo, mais sous quel nom connaît-on mieux Ricardo Baliardo?
Ah, je sais, Ricardo Montalban.
Non, et il est mort il y a 10 ans, d'ailleurs, hein, Ricardo.
Richard quelque chose?
Ah, non, alors là, vraiment, c'est le gitan le plus célèbre, bien
alors,
avant.
C'est un gypsy,
c'est Ramoncho?
Mais non, bien avant Kenji Girac.
Nikos Aliagas?
Non.
Il est chanteur?
Chanteur, non, mais...
Acteur?
Il a chanté un peu aussi, mais c'était pas...
Oui, c'est... Comment il s'appelle avec Denise Fabre? Et les...
Ah oui, le magicien, là.
Garcimor.
Garcimor.
Non, mais j'ai même pas compris la question. Je sais plus c'est quoi la question. Ça va trop vite.
En tout cas,
il vient de me réveiller il y a pas longtemps. Doucement, ça va trop vite.
Ah oui, donc il est sexy, mais...
C'est quoi la question de...
Non, il me comprend bien.
Il est sexy, mais il est con comme une bite.
Vas-y.
Et c'est un type de la pègre.
Non mais Garcimore n'était pas gitan.
On cherche le gitan le plus célèbre.
Jamais.
Ricardo
Baglia
était portugais.
Zaz.
Mais non. Ricardo Baliardo, c'est effectivement le gitan le plus célèbre.
Mais c'est un film.
Sauf qu'on ne le connaît pas sous ce nom-là.
D'accord, on a compris, mais c'est un film.
Il avait pris évidemment un pseudo.
C'était
dans un film.
C'est pas dans un film.
Allez,
c'est...
je la retente. Zorro.
Non.
Est-ce que c'était égaré du droit chemin?
Pas du tout.
Pour pas dire.
Il avait pris un pseudo qui voulait d'ailleurs dire. Doigt de fée, petite...
Ah, c'est Django Reinhardt.
Mais non, pas Django Reinhardt.
Mais non, il n'avait pas de doigt.
C'est là qui chante Jolie Poupée.
Doigt de fée, c'est Dédos, quelque chose.
Alors, Bernard Menez, comme gitan.
Il jouait de la guitare.
Absolument.
Oui. Brassens. Brassens.
Mais non, pas Brassens.
Mais je laisse la réponse.
C'est Carlos. Non, il faisait des...
Non, Carlos, il pose des bombes.
Petite main d'argent.
Mais oui. Manitas de la Plata.
Manitas de Plata, bonne réponse de Gérard Jugnot. Ça veut dire petite main d'argent. Manitas de Plata, c'était son pseudonyme.
Non, c'est petite main plate, c'est très difficile de jouer.
Petite main d'argent, Manitas de Plata.
Il avait des petites mains ?
C'est le pseudonyme qu'il avait pris en tant que guitariste, mais son vrai nom c'était Ricardo Baliarda. Ah. Il est mort en 2014 et c'est évidemment le guitariste gitan le plus célèbre au monde. Manitas de Plata.
Et les temps ont changé, parce que maintenant, les plus célèbres, c'est les Lopez. La calotte de Témor.
C'est vrai, ça. C'est vrai.
Qui ça, les Lopez?
La famille des Lopez, Laurent.
La famille des Lopez, là, ils veulent se castagner.
Mais c'est qui, ça, les Lopez? Mais
ils ont fait le buzz sur YouTube à l'époque, il y a quelques années, parce qu'ils réglaient leur compte, mais par vidéo interposée.
Mais je connais pas les Lopez.
Je vais te baiser Témor, qui disait. Mais c'est pas moi qui le dis. Hein,
vous les connaissez d'où, les Lopez?
Et des toilettes, quand je scroll. Ben ouais.
Et depuis cette toilette, il connaît du monde. Hein.
J'espère que tu te laves les mains.
Tu veux que je fasse quoi?
C'est Manitas de Merdas.
RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous. Les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savatha et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge. Et un nez de clown.
Oui, bah c'est très rouge, quoi, surtout.
Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, Origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Bonjour Anne, vous êtes aidante?
Oui, depuis 2 ans maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Johnny Hallyday, l'exposition.
Un hommage à l'idole des jeunes et à sa vie hors du commun. Ses costumes de scène, ses guitares mythiques, ainsi que des témoignages et des anecdotes. L'exposition événement à ne pas manquer.
Actuellement à Paris Expo, porte de Versailles, avec RTL.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise, appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
On parlait justement des gitans. Sachez que le podcast signé Florian Gazan aujourd'hui justement on parle des gitans. Et pourquoi les gitans s'appellent comme cela? Vous saurez. RTL.fr ou encore l'appli RTL.
RTL.
Les grosses têtes répondent aux auditeurs.
Manu est un des premiers auditeurs à avoir réagi à l'émission d'hier sur lesgrossetêtes@rtl.fr. Bonjour Manu.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public.
Salut Manu. Et Manu était content. Salut Manu. Parce qu'hier, dans le livre du jour, la rubrique Le Livre du jour, on a passé du Metallica et ça vous a fait plaisir.
Exactement, oui. Donc, dans son livre Si tu revenais, Coralie Jeanne avait parlé de son personnage avec t-shirt de Metallica.
Oui.
Et vous avez passé du Metallica, donc c'était super. Sauf que vous l'avez mis en sourdine assez vite. Donc, alors que quand c'est du rap, ce genre de choses, vous laissez un peu plus longtemps.
Ah, vous trouvez que j'ai passé un extrait trop court de Metallica?
Trop court et pas assez fort.
Comment ça, pas assez fort?
Vous avez qu'à augmenter le son de votre poste.
Et vous pouvez acheter le disque.
Alors, il y a vous voulez dire qu'on doit mettre le son, nous, plus fort plutôt que vous?
Voilà, exactement.
Ah bon, on va essayer, allez-y, mettez-moi le son fort sur du Metallica.
Ah ben voilà.
Manu, vos désirs sont des ordres.
C'est formidable, vous êtes formidable, Laurent.
Sauf que, il paraît que j'ai dit que c'était du death metal et c'est pas du death metal.
Et non, c'est du crash metal. C'est pas du death metal.
C'est inécoutable.
C'est subventionné par les ORL.
Oui, ça fait saigner les oreilles, comme disait notre ami, comment il s'appelait déjà sur RTL, le camarade...
Georges Lang?
Non, pas Georges Lang.
Philippe Manœuvre.
Non, pas Philippe Manœuvre non plus. Zégut. Francis Zégut.
Zégut. Oui, tonton Zégut.
Oui, c'est Zégut qui passait du hard rock, du death metal.
Oui, un grand connaisseur.
Et du Metallica. Bon, bah, Manu, maintenant, tu descends, Manu, hein?
Pourquoi faire?
pour recevoir un almanach ou un mug.
Ah, bah, les deux, ça serait parfait.
Bon, mais sauf qu'il faut envoyer ça en Nouvelle-Calédonie, non?
Eh ben, en ce moment, je suis en France. Alors, profitez-en, ça coûtera moins cher en frais de port.
Eh ben, très bien. Alors, on vous envoie un almanach, Manu. Camille, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Camille.
Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe.
Et Camille voudrait saluer les deux nouveaux de l'émission, Bruno Solo et Stomy Boxy.
Oh oui. Ah oui, carrément.
Parce que vous dites, j'aimerais que l'un et l'autre viennent souvent.
Comme j'aimerais bien aussi retrouver François-Xavier de Maison.
Il reviendra. Il reviendra, c'est promis.
Hector Obalque, super contente aussi qu'il fasse partie de l'équipe. Que tous ces gens-là viennent et puis qu'on ait le plaisir de ne plus entendre...
Aïe.
Les autres.
Mergo, Diamant,
Patois. Ah non, Isabelle Mergo, je l'adore.
Merci beaucoup, madame.
Christophe, il n'y a pas de quoi, Isabelle. Christophe Beaugrand, surtout quand il fait l'accent belge, même si les Belges trouvent qu'il a un accent pourri, moi ça me fait beaucoup rire. Mais Laurent, mais qu'est-ce qui s'est passé le jour où vous êtes allé le chercher, celui-ci?
Mais de qui vous parlez?
Vous étiez en pleine dépression, c'était. C'était Ryu ou prendre le gaz?
Non, Ryu, il est bon, Ryu.
Oui, très bien, Johan Ryu, Camille.
Ah non.
Ben oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, Camille, vous voyez.
Laurent, si jamais il y a quelqu'un qui me démonte comme ça un jour, coupe tout de suite le micro. <c'est pas
grave. rire> Allez, on passe à Émilie. Bonjour, Émilie.
Très nombreux.
Bonjour,
Émilie. Bonjour, ah, ben alors, Stomy Boxy, ça vous fait plaisir, vous aussi, aux grosses têtes. Adil Rami est un peu jaloux, il a eu le droit.
Mais
à
non,
la même,
mais parce que c'est un vieux maintenant.
À la même chose quand il est arrivé, mais ça y est, faites partie des meubles maintenant.
Bah oui,
c'est un ancien.
Ah bah oui.
Laurent, les plus anciens doivent s'inquiéter des arrivées ou pas?
Non.
Toi, oui, mais les autres.
Et vous vouliez dire quoi à Stomy, alors, Émilie?
Bah, moi, j'étais contente de son arrivée aux grosses têtes, mais j'ai surtout pris une grosse, grosse claque. Parce que moi, Stomy, j'ai l'impression que c'était hier que je l'écoutais sur Planète Rap. Skyrock, avec
Guy Fool,
etc.
Et en fait, il y a 40 ans.
Eh ben non, voilà. Et vous en avez 63 maintenant.
Voilà. Et là, je me suis dit, et quand j'ai entendu que Stomy arrivait au gros tête, mais j'étais hyper heureuse, mais je me suis dit, ouais, mais Émilie, en fait, tu te réjouis de l'arrivée de Stomy au gros tête et tu n'écoutes plus sur Skyrock. Et donc, ça m'a mis.
Bah oui, on a tous pris 10 ans ou 20 ans.
Ah non, 20 ans.
Avec sursis, moi, mais.
Ça fout un coup, bah, j'étais dans le train, il y avait deux vieilles dames dans un avion en Corse, et mon fils a entendu, ah tiens, c'est Philippe Bouvard. Ça m'a foutu un coup. Hein.
En parlant de vous,
t'étais dans l'avion, il y a quelqu'un qui s'est levé pour te donner la place, c'est ça?
et en tout cas, vous voulez saluer votre gangster d'amour, dites-vous, Émilie.
Ça voilà. Émilie, c'est gentil.
Ça fait plaisir.
Que je suis depuis plus de 25 ans maintenant. Bah,
voilà. Il a très peu changé, honnêtement.
Vous allez continuer à le suivre aux grosses têtes, Émilie.
Moi, bisous.
Cathy, maintenant. Merci. Bonjour, Cathy.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Cathy, vous appelez pour dire que je suis le plus beau et que je suis vraiment sexy, attirant et que vous allez, je vais vous manquer quand je serai pas là.
Non, c'est pour Adil Rami qu'elle appelle. Bonjour Cathy.
Elle a du goût Cathy.
Qu'est-ce que vous voulez demander à Adil?
En fait, je voulais dire à Adil que si vous aviez joué une heure ou un match en Coupe du Monde, j'aurais jamais entendu parler de vous.
Ah, c'est pas con.
La théorie est bonne, hein.
Je viens de comprendre, ouais, c'est pas mal.
Elle dit, c'est grâce à Didier Deschamps que vous avez cette notoriété aujourd'hui. Si vous aviez joué une heure pendant la Coupe du Monde, personne n'aurait parlé de vous. Les gens comme moi qui ne regardent pas le foot n'auraient jamais entendu parler d'Adil. Mais le fait qu'il soit champion du monde sans avoir joué fait qu'il est là chez vous aujourd'hui.
Exactement.
Mais vous l'aimez bien quand même, Adil, Cathy.
Ah bah, il est génial. C'est une super recrue.
Ah bah voilà, vous voyez.
Merci beaucoup.
Je l'ai dit à Deschamps qu'il fallait le faire jouer.
Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a un joueur qui a joué un seul, juste un match ou une demi-heure à la Coupe du Monde 2018?
Ah oui, il y en a qui ont joué peu.
Bien sûr.
Attends, on les connaît pas.
Dans quoi? En 2018?
Ouais.
Oui, il y en a quelques-uns.
Eh ben, on les connaît pas. Du coup, on n'a pas entendu parler d'eux.
Bah parce qu'ils n'ont pas pêché au Pamela Anderson.
Mais c'est vrai, il a raison, moi c'est comme ça que j'ai connu.
Ça fait marrer Stomy, ça.
Et c'était quand Pamela Anderson?
2017.
Sur la fin.
Non, non,
vous avez eu d'autres cougars depuis Pamela Anderson?
J'ai eu d'autres quoi?
Cougars.
Réponds, Adil, réponds.
Mais derrière ça, j'ai une avalanche de demandes de cougars, mais j'ai plus pratiqué.
La cougar du Nord, la cougar Saint-Lazare, la cougar de l'Est. Plus cher, la cougar de l'Est.
Et juste à titre d'étude sociologique, hein, pour savoir, depuis Pamela Anderson, combien vous avez pécho de nana?
Oh là 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 là.
Ah non,
c'est indiscret. Il peut pas compter comme ça, il lui faut une calculatrice.
On vous remercie, Cathy, en tout cas. Et on passe à Karine. Bonjour Karine.
Bonjour à tous.
Alors,
Karine nous écoute depuis son enfance et elle ne pourra pas venir à Montluçon. Vous me prévenez que vous ne viendrez pas à Montluçon vendredi?
Oui, je viens pas, je suis super déçue puisque les places sont parties tellement vite.
En tout cas, Karine, vous pourrez nous écouter. Il y aura une super valise RTL à gagner. Super valise de 15 000 euros cash. Et je rappelle que vous pouvez vous inscrire par SMS en envoyant le mot valise. V-A-L-I-S-E, est-il utile de le rappeler?
Bah, il y a Adil, hein, c'est pas mal.
Le mot valise au 74 900. Si vous envoyez donc ce SMS qui vous coûtera 75 centimes, pas plus de 4 SMS par personne, eh bien, vous serez peut-être le gagnant, car il y aura un tirage au sort parmi tous ceux qui se sont inscrits. C'est la première fois. On l'a déjà fait, mais c'est très rare. On fait ça de temps en temps. 15 000 euros cash par tirage au sort. N'hésitez pas à envoyer le mot valise au 74 900. Ce sera vendredi à Montluçon, la super valise RTL.
15h30, 18h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL.
RTL Matin. L'œil de Philippe Cavrivière.
Alex Vizorek vous a remplacé toute la semaine dernière.
J'ai écouté, j'ai entendu vos rires. Oui. Infidèle, concupiscent, gras.
Les chroniques de Philippe Cavrivière, c'est chaque matin à 7h55 sur RTL et aussi à 8h30. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est cuit.
Pour Lidl?
Et non, pour nous et pour les crevettes. En ce moment, la barquette de 100 grammes de crevettes haïssées décortiquées au citron et à la coriandre est à 2,30€ au lieu de 2,99€, moins 23%.
2,30€ les crevettes.
Eh oui, on est mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 23€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mercredi 24 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Hey, trop de boulot, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Corentin.
Moi ?
Oui, vous ! Car du 23 au 29 avril, pendant l'anniv Netto, le paquet d'essuie ou absorbant double épaisseur Netto est à seulement 2,53€ au lieu de 3,84€. De quoi essuyer toutes les bêtises de vos petits monstres !
2,53€ le paquet d'essuie ou absorbant double épaisseur Netto ? Les enfants, on est sauvés !
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto.
Pack de 6 rouleaux, 34% de remise immédiate. Plus d'infos sur netto.fr.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre expert auto, alors dites-nous, qu'est-ce qu'un véhicule d'occasion reconditionné ?
Alors, c'est comme un véhicule d'occasion qui serait sorti d'usine. Il a suivi un processus de rénovation pour retrouver sa première jeunesse. Mm-hmm. C'est ce qu'a fait Autosphère en mettant au point un parcours très rigoureux de remise en état qui se finit par une vérification qualité sur 100 points de contrôle.
Et que garantit Autosphère dans cette démarche de reconditionnement ?
Alors souvent, avec l'achat d'une voiture d'occasion, on a peur des défauts cachés du véhicule, des coûts d'entretien.
C'est vrai.
Eh bien, grâce à un reconditionnement minutieux, Autosphère assure une qualité irréprochable et la fiabilité de ses véhicules. Et il y a même une garantie de 12 mois minimum incluse, valable dans ses 250 concessions en France.
Ça, c'est rassurant.
Ah oui, et Autosphère permet aussi à ses clients de se faire rembourser sous 30 jours ou 1000 km s'ils ne sont pas satisfaits,